Frères et sœurs, les deux premières lectures d'Isaïe et de saint Paul nous montrent l'urgence du maintenant. Autrefois, il y a toujours ce parallèle entre autrefois et aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire des choses nouvelles, dira Isaïe. Et puis, saint Paul, qui considère tout ce qui était dans le passé comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Cette urgence de la conversion que l'on peut retrouver aussi dans cet évangile, avec cette parole « Va et ne pêche plus », sur lequel je vais revenir. Nous sommes à 15 jours de fêter Pâques. Il est temps de faire nos Pâques, mais faire ses Pâques, ce n'est pas seulement se confesser, c'est aussi rentrer dans ce mouvement radical de la conversion. Et pour ceux qui le désirent, eh bien, n'hésitez pas à reprendre les évangiles dès maintenant, les évangiles où, comme nous l'entendons ici en Jean 8, Jésus alterne entre le mont des Oliviers et le Temple. Alors, dans saint Jean, à cette place-là, au chapitre 8, ce n'est pas encore les derniers jours du Christ à Jérusalem, mais nous savons maintenant, justement, dans ce temps de la Passion, contempler Jésus qui vient au Temple, qui est entouré par la foule qui vient écouter le Christ, la foule qui vient se mettre à son école, et puis Jésus qui se retire au mont des Oliviers, Jésus qui prie le Père le soir pour rentrer dans cette offrande de lui-même que nous allons célébrer à partir de dimanche prochain, dans cette semaine sainte, depuis les rameaux jusqu'à la mort et la résurrection du Christ. Alors nous recevons cet évangile aujourd'hui comme pour un petit programme pour ces 15 derniers jours, un peu comme dans une urgence pour la conversion, l'évangile de la femme adultère que nous connaissons bien et qui pourrait être aussi, avoir une relecture assez actuelle. On connaît aussi tous les crimes qui sont mis à jour aujourd'hui dans l'Église. Je ne vais pas revenir concrètement sur cela, mais on pourrait citer aussi le génocide du Rwanda en ces 25 ans, du début de ce génocide, et tous ces crimes. Et d'une certaine manière, lorsque la femme adultère est jetée par terre devant le Christ, c'est un peu comme si le monde remettait devant le Christ ces hommes et ces femmes qui ont commis des crimes. Et pour lui dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ces situations-là? On a vécu une année de la miséricorde, on a beaucoup parlé de la miséricorde de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire miséricorde dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels est-ce que tout est pardonnable? Dans l'Ancien Testament, le symbole de l'adultère, c'est le symbole de l'infidélité du peuple. Voilà, souvent, Dieu dit « Mon peuple est un peuple adultère ». Et d'une certaine manière, Jésus, ici, c'est l'époux. C'est l'époux devant son épouse qui est adultère. Et voilà, c'est le Créateur face à sa créature, et sa créature n'a pas fait le bien. Qu'en est-il, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait? Et le monde peut nous remettre cela devant les yeux. Qu'est-ce qu'on fait, mon Père, aujourd'hui? C'est quoi cette Église? Qu'est-ce que c'est que ces crimes? Et ce qui est intéressant, c'est que les scribes et les pharisiens vont revenir à la loi. Et aujourd'hui, si pendant des années on a pu reprocher un peu la morale de l'Église, il y a bien un point positif dans toutes nos histoires, des histoires dramatiques, eh bien c'est ce retour à la loi. En fait, il y a comme des crimes impardonnables. Vous voyez, avant on parlait du péché véniel et du péché mortel. Je crois que c'est la première fois en homélie comme prêtre que j'ose prononcer ces mots. Vous voyez, mon Père, on ne parle plus de cela. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous sommes privés de la grâce de Dieu? Nous sommes vraiment coupés de la grâce de Dieu. Notre péché nous détourne complètement de la grâce de Dieu. Et dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Que faire? Alors sûrement, il y a un retour à la loi. Revenir peut-être dans cette distinction du péché véniel, péché mortel. Jésus le dit lui-même, hein, celui qui scandalise un de ses petits, il faudrait mieux pour lui qu'il ait une meule au cou et qu'il descende au fond de la mer. Donc il y a quand même une radicalité, donc un appel urgent à la conversion. Mais nous contemplons à ce moment-là Jésus qui s'abaisse et qui écrit sur la terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette écriture sur la terre? Bien, de nombreux théologiens se sont posé la question, ont donné une interprétation. Qu'en est-il? On ne sait pas vraiment. Est-ce que ça nous rappelle Jésus qui se rappelle quand il a façonné l'homme, qui prit le limon de la terre et qu'il a façonné sa créature? Jésus qui se rappelle le projet qu'il avait pour chaque homme. La beauté de l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et voilà, et Jésus peut dire, mais voilà, le projet que j'ai pour Dieu, c'est un projet magnifique. Et effectivement, peut-être que Nous sommes infidèles, nous ne sommes pas fidèles à la loi. Et pourtant, dans mon cœur, j'ai encore ce projet-là qui demeure. Comment l'homme va-t-il pouvoir accomplir cette vocation qui est la sienne? Il se met à écrire sur la terre. Ça peut être aussi la loi nouvelle qu'il est en train d'écrire. Jésus nous a donné la loi, il a écrit la loi sur des tables de pierre et maintenant il écrit sur cette terre cette loi nouvelle qu'il veut nous transmettre dans sa passion. Il se relève et dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et il s'en allait en commençant par le plus ancien. Puis la femme resta seule avec Jésus et lui dit « Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. » Va et désormais ne pêche plus. Alors dans cette situation, face au fond à ce péché, je pense que la première expérience que nous pouvons dire, c'est qu'au fond il n'y a pas que quelques cas, même s'il y a une gravité bien sûr qu'il faut poser, gravité du péché, nous sommes tous infidèles. Nous pourrions tous être jetés devant le Christ comme une femme adultère. Oui Seigneur, je ne suis pas fidèle. Et ça depuis bien longtemps. Saint Claude la Colombière, dans ses homélies sur l'Immaculée Conception, regarde l'Immaculée Conception et dit « Mais en fait, il n'y a que Marie. Hein, » c'est en même temps plein de miséricorde pour nous. Il n'y a que Marie qui est pure, la toute pure, la toute sainte. Et que nous-mêmes, dès l'origine, dès notre naissance, nous sommes marqués par le péché originel, par cette concupiscence, ce désir de ne pas forcément faire le bien. Et nous voyons bien que si nous recevons la grâce du baptême, très vite, nous retombons dans le péché et nous nous coupons du Seigneur. Et donc nous sommes tous dans cette situation de dire, au fond, je ne suis pas fidèle à Dieu. Je ne suis pas, j'ai plein d'aspects dans ma vie où je vois bien que je ne suis pas à la hauteur du regard que Dieu porte sur moi. Je suis bien loin de cela. Et donc, deux aspects que nous pouvons contempler. D'abord, quelle est l'attitude des hommes? Quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude face à cela? Eh bien, on nous dit dans l'Écriture qu'il partait, est-ce que celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre, il s'en allait à commencer par les plus âgés. Comment est-ce qu'au fond nous portons notre regard sur l'homme pécheur? Je ne vais pas minimiser le péché, mais Saint-Claude aussi, souvenez-vous, dans son acte de confiance, hein, il dit « Je sais ce que peuvent les tentations les plus fortes contre les âmes les plus affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel. » Et quand il remédite un peu sur le témoignage des saints, ils disent que les saints ne sont jamais convaincus d'avoir gagné la course. Je l'ai déjà évoqué ici plusieurs fois. Jusqu'à la fin, ils essaient de prendre les moyens pour leur conversion et restent tout tremblants en disant « Mais en fait, je pourrais retomber. » Et d'une certaine manière, nous sommes invités à nous laisser habiter par cette parole de Jésus. « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. » Et comment le pharisien et le scribe vont, on va s'entraîner pour être à l'image de ce que Dieu veut. Comment nous allons pouvoir grandir dans ce chemin-là? Deuxième élément, quelle est l'attitude du Christ? Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Vous voyez, on pourrait dire, ça c'est le pardon de Dieu. Dieu me dit, je te pardonne tous tes péchés. Sauf qu'après, il rajoute, va et ne pêche plus. Et souvent, on peut vivre la confession et on peut vivre notre Pâque en disant, il faut que je me confesse. Mais l'enjeu, ce n'est pas seulement de se confesser, c'est de se convertir. Vous voyez, en confessant nos péchés, nous reconnaissons, mais Seigneur, je ne suis pas fidèle dans ce domaine-là. Et en fait, j'en ai vraiment le désir. Et l'enjeu de la confession va se jouer après la confession. C'est le chemin de la conversion. C'est dire, ce point-là, comment je vais prendre le moyen de me convertir sur ce point-là? Et pas seulement dire, c'est bon, l'ardoise est effacée, on peut repartir, et puis voilà. Souvent, on prend très peu d'efforts, en fait. On n'essaye pas de travailler cette conversion personnelle. Et on arrive sur « Ah, je retombe toujours dans les mêmes péchés » ou « Ah, oui, effectivement, je suis dans une addiction qui me colle à la peau. » Mais est-ce que nous prenons les efforts, frères et sœurs, je dis « nous », hein, vous avez bien entendu, je dis « nous hein. ». Est-ce que nous prenons les efforts de vivre cette conversion? Voilà. Et nous pouvons demander cette grâce parce que le Seigneur, s'il lui dit « va et ne pêche plus », eh bien, veut donner la grâce à la femme adultère de rentrer dans cette conversion et veut nous donner cette grâce de rentrer dans la conversion. Pas simplement de se dire, et c'est là que nous rentrons dans le vrai sens de la miséricorde, non pas seulement il pardonne tous les péchés, mais il nous veut saints et immaculés dans l'amour à l'image de la Vierge Marie. Le psaume dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Miséricorde et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » La miséricorde va se faire dans la vérité. Et en fait, dans le grand crime que tu as commis, là, pour que tu puisses rentrer dans cette miséricorde, il faut faire la vérité. Et en fait, la plus grande miséricorde, ce serait de pouvoir se dire, eh bien, j'ai commis un crime et je dois me protéger moi-même et je dois vous protéger du crime que je peux faire. Je suis malade, je dois être soigné. Et ma miséricorde va être de permettre que tu retrouves ta dignité. Et pour cela, bah peut-être qu'il vaut mieux que tu sois en prison, que tu sois dans la rue. C'est une miséricorde, en fait. La prison est peut-être une miséricorde. Empêchez-moi de faire ce crime. Peut-être que j'ai besoin d'être soigné. Aidez-moi à retrouver ma sainteté. Alors, Saint-Claude la Colombière, toujours lui, dans ses homélies, reprend un peu ce chemin. Et il se pose la question, comment certaines personnes ont réussi justement à recevoir des grâces de Dieu, un peu comme la Vierge Marie, mais ils ne sont pas saints immaculés. Hein. Et alors certains s'imaginent, dit-il, que le Seigneur les a prévenus dès leur enfance, qu'ils ont reçu des grâces dès leur enfance, et du coup ils sont protégés depuis tout le temps. C'est pour ça qu'ils ont des grandes grâces de Dieu. Et il répond, non messieurs, ce ne sont pas là les voies ordinaires. Il en coûte à la plupart un peu plus que vous en pensez. Quand vous voyez les saints en disant « Ah, oh, ils sont beaux, magnifiques, moi je ne serai jamais un saint comme ça », il nous dit « En fait, ils ont travaillé pour devenir des saints. » Ça leur en a coûté. Et alors il reprend un petit chemin que je voudrais vous proposer, justement pour entrer dans ce « va et désormais ne pêche plus ». C'est par la pureté de cœur qu'ils ont gagné tous ces biens que vous leur enviez avec tant de raison. Ils ont d'abord purgé leur âme de toutes les ordures. Je parle de ça parce que saint Paul dit « Je me suis libéré des ordures ». Bon, faites vos poubelles, mais peut-être que notre cœur, il y a aussi des ordures dans notre cœur. Donc, quelles sont les ordures dont Dieu veut nous débarrasser? D'abord, ils ont purgé leurs âmes de toutes les ordures qui s'y étaient amassées, soit par l'ignorance, soit par les emportements de la jeunesse. Peut-être que oui, il y a eu des emportements de la jeunesse, peut-être qu'il y a des mauvais plis qui ont été pris. Mais Seigneur, en fait, je sens bien qu'il est temps maintenant, et c'est une urgence pour nous, et si j'insiste pour nous, c'est que nous avons ce devoir de la sainteté. Il faut que des figures s'élèvent de sainteté encore plus fortement dans l'Église. Ensuite, ils ont commencé à se défendre de tout péché, même véniel, commis délibérément. Je dis avec délibération, ce qui est si éloigné d'être impossible qu'il est même assez ordinaire et facile à quiconque a fait une vraie résolution de servir Dieu. Alors vous me direz, mon père, ça commence à être compliqué les phrases là, c'est du XVIIe siècle. Il est difficile de se garantir des fautes de pure fragilité et d'inconsidération. Il y a des fautes qui nous sont compliquées, parce que nous sommes fragiles. Saint François de Sales dit qu'on ne pêche pas tant par malice que par faiblesse. Il y a peut-être des endroits où je suis faible, effectivement. Et du coup, il faut que je demande à la puissance de Dieu qu'elle se déploie dans ma faiblesse, et que je puisse travailler ces points faibles. Mais il dit, pour les péchés de sang-froid, de dessein formé, il faut aimer Dieu fort faiblement, il faut avoir un grand mépris pour cette majesté. Ce qui est, d'une certaine manière, des choses de résolument au péché, ça, nous pouvons plus facilement nous en séparer. Troisième étape, ensuite, on passe plus loin, en sentant dans une grande volonté de ne plus déplaire à Dieu, et comme incapable de le faire autrement que par surprise. Vous péchez par surprise de temps en temps? Est-ce que vous vous surprenez à pécher? Oh, c'est bizarre, là, j'ai péché. Ah, c'est extraordinaire. Elle dit, en fait, les saints, à un moment, ils disent, mais c'est par surprise, ils sont fait prendre comme ça. Vous voyez, mais tout ce qui est de l'ordre de leur volonté et tout ça, elle est bien alignée. Avec ces soins, dit-il, on fuit les occasions, on se retire, on se réfléchit souvent sur soi-même, on prévoit le péril, on étudie les moyens dont on pourra se servir pour se défendre. J'aime bien encourager les pénitents quand ils viennent me voir de me dire, en fait, là, je suis encore tombé. Il me dit, tiens, revoyez la tactique du diable. Pourquoi est-ce que vous êtes tombé à ce moment-là? Et quand est-ce que ça a flanché? Quand est-ce que là, vous êtes fait avoir? Et revenir là-dessus, revisiter les périls. Normalement, telle cause va procurer telle conséquence. Je revisite ma confession quand je suis plus paisible. Je viens de me confesser, je viens de voir la grâce de Dieu. Je revisite ma confession en disant, c'est là que je n'ai pas été bon. En fait, ça s'est joué 15 jours avant, ce truc-là. Ou alors, ça s'est joué 3 heures avant. J'ai vu que j'étais hyper crevé et que je pense qu'en rentrant à la maison, ça allait exploser. Alors comment je gère ces 3 heures avant pour rentrer peut-être plus paisiblement à la maison et faire que... Voilà. Ou j'anticipe, je suis à la maison depuis 5 heures, j'ai les enfants avec moi, je suis comme ça. Aussitôt que mon mari va rentrer, il va prendre toute la colère de la journée. Il arrive dans 15 minutes, Je vais peut-être faire un petit exercice. Allez, enfants, chacun dans votre chambre, vous faites vos devoirs et je prépare le retour. Voyez. Avec ses soins, on ne tombe que fort faiblement. Je conclus par ces paroles de Claude qui dit. C'est le secret, voilà. Il importe peu quel état de vie vous ayez choisi. Donc ici, c'est bien, on a tous les états de vie, quel que soit le côté qu'on regarde. Soyez dans une famille ou dans une communauté, dans un palais ou dans un désert, soyez pauvre ou riche, dès que vous aurez le cœur pur, Dieu vous remplira de ses grâces. Il demande pour cela que des âmes vides et nettes, vides afin que ses dons y soient reçus, nettes afin qu'ils ne s'y corrompent pas. Ben, demandons cette grâce au Seigneur, en ces 15 jours, peut-être d'entrer dans une conversion plus forte, d'entendre cette parole, va et désormais ne pêche plus. Et si par fragilité ou nous tombons, eh bien, revenons à la miséricorde, reprenons ce chemin pour que nous puissions vraiment rentrer dans cet appel à la sainteté que Dieu veut pour chacun de nous. Amen.